MCI TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de « Bonjour chez vous ». Nous sommes vendredi, nous espérons que vous avez passé une très belle semaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur. J'aime beaucoup les thèmes autour des enfants et de notre rôle en tant que parents. Et aujourd'hui, on va parler des parents. Parents, vous êtes la couverture spirituelle de votre enfant. Et j'en parle aujourd'hui avec Annabelle et Omer. Bonjour à vous deux.
Hello Nadine.
Bonjour, trois parents sur le plateau.
Trois parents sur le plateau et des parents impliqués, hein, vraiment, autant toi que nous. Hein. On est des parents impliqués dans la vie de nos enfants, qui prions pour nos enfants, qui comprenons la portée spirituelle de notre rôle en tant que parents. Et c'est notre encouragement pour vous aussi, à vous qui avez des enfants, peut-être vous êtes parents en devenir, peut-être vos enfants sont encore tout petits, peut-être que votre enfant sont à un âge où est-ce qu'ils vivent des défis, que ce soit dans leur santé ou peut-être des défis dans leur comportement, peut-être une indécision face à l'avenir. Voilà, vous voyez vos enfants en train de lutter et vous vous dites qu'est-ce que je peux faire, mais on veut vous encourager aujourd'hui en tant que parents à prier pour vos enfants et il y a un résultat, vraiment, il y a un résultat à nos prières en tant que parents et on va le découvrir aussi en deuxième partie d'émission parce que nous aurons le témoignage de Delphine qui dit que sa mère a lutté pour sa naissance et pour son salut, un beau témoignage que nous allons découvrir en deuxième partie d'émission, mais pour l'instant, nous commençons avec Omer dans la pensée du jour.
Alors aujourd'hui, j'aimerais inviter chaque parent découragé, chaque parent qui ne voit pas l'issue par rapport à leurs enfants ou chaque futur parent à prier pour vos enfants. Le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à vos enfants, c'est de prier pour eux. C'est le meilleur cadeau que j'ai reçu de la part de mon père. Sinon, je ne serais pas de mon père et de ma mère. Sinon, je ne serais pas assis dans cette chaise ici. J'avais bien d'autres ambitions. Mais leurs prières m'ont remis sur la bonne voie. Alors, je crois dans l'efficacité de ces prières-là. Job, chapitre 1, le verset 5 nous dit « Et quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses enfants, puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Et ici, on ne veut pas parler juste de prière en temps de... Je ne parle pas de prière en temps de crise, mais je parle de prière régulièrement pour nos enfants qui, eux, ne sont peut-être pas encore arrivés à l'étape où ils ont compris l'importance de la prière, où ils ont compris l'importance du salut, l'importance des décisions, la conséquence des décisions qu'ils sont en train de prendre. Alors, j'aimerais t'inviter à faire trois prières régulièrement pour tes enfants. Le premier type de prière, ce sont ce que j'appelle les prières préventives. Le but des prières préventives, c'est de prévenir quelque chose avant que cela ne puisse arriver. La Bible dit que Job disait « Peut-être mes enfants ont péché. » Il avait, oui, peut-être peur qu'un malheur puisse arriver. Mais quand tes enfants, par exemple, vont à l'école, tu veux à ce moment-là prier pour que eh bien toute forme de danger sur leur route soit écartée, que toute forme de personnes mal intentionnées soit écartée de leur chemin, tu peux le faire par la prière. Premier type de prière, les prières préventives. Deuxième type de prière, c'est les prières curatives. C'est les prières à faire lorsque une chose est déjà arrivée, lorsque un malheur est déjà arrivé, une situation est déjà arrivée et là, vous voulez corriger la situation. Exemple, je ne sais pas, l'enfant a décidé que ben, pour lui, écoute, je n'irai plus à l'école. Et par la prière, vous pouvez fléchir le cœur de votre enfant. Je le répète, par la prière, vous pouvez fléchir le cœur de votre enfant. Et je vous prie de faire ce genre de prières, car c'est les prières qui arrachent les enfants de la délinquance, c'est les prières qui arrachent les enfants des mauvais choix que l'enfant est en train de faire, sans comprendre que le choix qu'il fait aujourd'hui va l'emmener demain. Les prières curatives ont pour but de corriger une situation. Et ensuite, j'aimerais vous encourager de faire des prières d'orientation. Le but des prières d'orientation, c'est les prières dans lesquelles on va les faire pour que bien, Dieu dirige les pas de l'enfant. Dieu incline ses pas. Il dit, vous entendrez un chemin qui vous dira, voici, une voix qui vous dira, voici le chemin que vous voulez suivre. Dieu dit à Jérémie, eh bien, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Eh bien, ce sont ce genre de prières-là où nous prions, Seigneur, aide mon enfant à faire des bons choix, incline son cœur, donne-lui envie d'aller à l'école, donne-lui envie de s'appliquer, qu'il aime l'école, qu'il puisse fuir les distractions. Et par ce genre de prière, vous déclarez sur la vie de l'enfant ce que vous voulez que votre enfant puisse être. J'aimerais finir en disant à chacun des parents, vos prières sont puissantes, votre bouche est puissante. Dieu vous a établi non seulement comme une couverture spirituelle pour l'enfant, mais comme une autorité spirituelle pour l'enfant. Vos paroles ont de l'impact sur la vie de l'enfant. Déclarez ce que vous voulez, faites des prières curatives, des prières préventives et des prières d'orientation. Et demain, vous bénirez Dieu quand vous verrez ces enfants devenir des grands hommes de Dieu, des hommes et des femmes responsables dans la société. Et c'est là, grâce à vos prières.
Amen, amen. Merci beaucoup pour ta pensée, Omer. Une très belle pensée, un encouragement pour vous, chers parents. C'est vrai, on va le dire, on va le répéter pendant toute cette émission. Vous avez une autorité et cette autorité, utilisez-la, à bon escient en priant pour vos enfants. Et on va découvrir notre verset du jour aujourd'hui. Il est dans Romains 10, au verset 1. La parole dit, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Et on parle de prière aujourd'hui, c'est sûr, en tant que parent, on peut, voilà, tu as nommé différents types de prières, on peut prier pour différentes choses, voilà, mais je crois que aussi, essentiellement, une prière qu'on doit faire aussi pour nos enfants, c'est cette prière-là de les confier à Dieu, qu'ils puissent rencontrer le Seigneur, que leur cœur soit touché par l'Évangile pour qu'eux-mêmes aussi puissent vraiment le connaître et marcher selon ce voie, parce qu'on ne sera pas toujours là, on ne sera pas derrière eux à toujours répéter, mais si eux, ils rencontrent le Seigneur à ce moment-là, c'est eux-mêmes qui vont pouvoir prendre les décisions pour eux-mêmes.
Et il y a des prières que seul un parent peut faire parce que ça vient d'un cœur de parent et c'est un amour qui est particulier pour son enfant et ça va amener une ferveur, une persévérance, une profondeur, une détermination que personne d'autre ne pourrait avoir et c'est pour ça qu'en tant que parent, on doit prendre cette place dans la prière et plus les enfants grandissent et je dis pas qu'il faut pas prier pour eux quand ils sont petits, mais plus ils grandissent et plus notre rôle dans la prière doit s'ancrer parce qu'il y a peut-être des périodes où ils n'auront pas envie d'entendre ce qu'on a à leur dire. Mais par contre, on aura beaucoup de choses à dire dans la prière et ces prières-là vont les garder. Frank disait que ses parents lui ont inculqué la crainte du Seigneur et que même dans les moments où il était un peu plus flottant, ça a mis des choses dans son cœur où il s'est dit « Ah non, je ne peux pas me permettre de franchir cette limite. Je sais que Jérémy, mon mari, m'a dit exactement la même chose. Et on voit tous ces enfants qui ont eu des parents qui ont prié pour eux. Ça les a gardés, même quand ils ont fait des mauvais choix. Il y a une limite qu'à chaque fois, ils se sont retenus de franchir. Et franchement, ce n'était pas à cause finalement d'eux. C'est juste à cause des prières de leurs parents qui étaient comme des filets de sauvetage pour les empêcher de basculer.
Mm-hmm. Écoutez, ça a été aussi mon cas. Je ne pense pas que...
Je n'osais pas le dire, Omer, mais...
Sinon, je ne serais pas assez... Dans cette chaise, comme j'ai dit, j'avais bien d'autres ambitions un peu douteuses. Voilà. Mais il y a une chose que je retiens de toute mon enfance, mon adolescence, c'est un père qui était constamment debout. Quand les mots manquaient, les prières fonctionnaient. Mmh. J'aimerais dire à un parent que quand les mots manquent, les prières fonctionnent. Mmh. Et ça, s'il y a une chose que l'ennemi ne veut pas, c'est que vous preniez la responsabilité de regarder cet enfant pour dire « Je ne l'ai pas mis au monde pour qu'il soit un échec, je vais prier pour lui. » La mère de Billy Graham, l'histoire raconte que quand elle avait plusieurs enfants, mais elle a juste fait une prière, « Seigneur, qu'un de mes enfants te serve. » Et ça a produit le plus grand évangéliste ou l'un des plus grands évangélistes du 20e siècle, un homme qui a parcouru le monde, c'était la prière d'un parent. La Bible dit oui, la prière du juste est d'une grande efficacité, mais j'aimerais dire que la prière d'un parent est d'une plus grande efficacité parce que nous prions pas seulement avec notre tête, mais nous prions avec nos entrailles.
Oui, absolument, nous prions avec nos entrailles et c'est des fois, devant un défi que l'enfant peut traverser, on peut être porté à parler les circonstances. On peut être porté à parler le découragement ou à se dire, bon voilà, à laisser tomber, etc. Ou à être confronter l'enfant, être dans un conflit relationnel. Mais lorsqu'on s'élève, même nous-mêmes en tant que parents, on monte un peu de niveau en disant, écoute, toi tu es l'enfant, moi maintenant je vais monter de niveau, je vais aller voir le Père Céleste, je vais monter un niveau supérieur dans la prière. C'est là qu'on est capable d'aller chercher aussi cet enfant-là. Parce que dépendamment aussi de ce que vit l'enfant, je pense surtout à des problèmes de comportement ou à des décisions comme ça, à une indécision ou un temps comme ça où l'enfant, il a comme, c'est comme s'il a perdu un peu le nord, il va un peu selon les amis, les influences, etc. Il est en train de prendre une voie que nous, en tant que parents, on ne souhaiterait pas qu'il prenne. Et peut-être notre nature charnelle veut discuter, veut commencer à échanger comme ça, à se tirailler et tout ça. Mais vraiment de prendre, de se ressaisir en tant que parent et de comprendre qu'il y a des enjeux spirituels aussi. Et comme tu parlais de Frank, lundi, on a fait une émission sur la crainte de Dieu et la peur du diable, en disant en fait que la peur n'est pas un bon moteur. La peur n'est pas un bon moteur, mais la crainte de Dieu, c'est ça qui va nous garder. Et vraiment, si en tant que parent, je vous invite vraiment à faire ce type de prière-là, à aller arracher vos enfants des mains de l'ennemi, à prier pour que la crainte de Dieu, l'amour de Dieu descende dans le cœur de votre enfant. Et comme Omar et Annabelle l'ont dit, c'est une prière qui vient tellement du fin fond de votre cœur. Ce n'est pas une petite prière comme ça que le groupe d'intercession à l'église peut faire pour vous. C'est vous-même en tant que maman, vous-même en tant que papa, vous dites non, cet enfant, je ne l'ai pas mis au monde pour qu'il finisse comme ça. Seigneur, tu m'as donné tout don parfait, toute grâce excellente, vient d'en haut du Père de lumière en Kinani, changement des hommes de variation. Cet enfant est un cadeau. Et alors, il va continuer à être un cadeau dans cette saison de sa vie. Et mais je t'assure, et c'est des prières comme ça qui viennent du fond de vous, qui font toute la différence en fait.
Et quand on prend aussi sa position, on s'attend à ce que Dieu puisse nous parler. C'est pas sur nos propres forces. Mm-hmm. On attend à ce que Dieu puisse parler. Et je l'ai déjà dit dans Parole de femme, mais plusieurs fois, moi, j'ai eu des rêves concernant Eden. Et tu te dis, bah merci Seigneur. Pas de bol pour elle, mais merci Seigneur. Et le fait aussi que tes enfants savent que Dieu te parle, les concernant, ça va faire, bon, selon la manière dont tu l'utilises aussi, il faut être sage, c'est censé faire naître aussi en eux la crainte de Dieu, de dire, mais en fait, j'ai beau mentir à mon père et à ma mère, raconter n'importe quoi, me faire passer pour l'enfant sage, etc. Mais Dieu me voit et Dieu parle parce qu'il ne veut pas que je reste dans ses mauvaises voies. Et on doit s'attendre à ce que Dieu puisse nous parler de différentes façons, puisse nous ouvrir les yeux, puis être prêt aussi à savoir dans la prière quels sont les vrais défis de nos enfants. Et là, quelquefois, on n'est pas une bonne couverture spirituelle parce qu'on veut juste couvrir les péchés de nos enfants, pas pour prier pour qu'ils soient délivrés, mais pour se dire ils sont parfaits, ils n'ont rien fait de mal. Et du coup, à ce moment-là, c'est là où nous-mêmes, on va se limiter aussi dans la prière parce qu'on ne veut pas se dire que nos enfants peuvent avoir des défis.
Et j'aimerais encourager plusieurs parents parce qu'il arrive un moment où on veut prier pour notre enfant, mais nos émotions prennent le dessus. Mmh. Parce que quand tu regardes cet enfant qui était beau, qui était mignon, et que tu regardes la bêtise qu'il a faite, tu te dis mais comment est-ce que tu peux faire une chose pareille après tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que je t'ai donné, etc. Et il y a des parents que parfois, quand tu veux prier, le diable joue sur tes émotions, justement, pour que tu haïsses cet enfant, pour que tu maudisses cet enfant, pour que tu dises des paroles qui vont marquer la vie de l'enfant. Et j'aimerais demander à plusieurs parents, avant de commencer à prier pour votre enfant, d'abord de demander que Dieu guérisse votre cœur et votre regard sur l'enfant, que vous puissiez regarder l'enfant comme cet être que Dieu vous a donné, comme cet être aussi qui vit plusieurs pressions qui sont exercées sur eux. Vous n'avez pas idée comment est-ce que les enfants sont sous pression, afin d'avoir un regard nouveau. Car un regard nouveau va produire en nous justement un cœur nouveau. Parce que parfois, nous prions pour nos enfants, mais nous prions en fait des lèvres, parce que c'est automatique. Mais il n'y a pas l'amour pour cet enfant qui est vraiment le soubassement de la prière et qui va conduire l'enfant. Et j'avais vraiment à cœur de demander que vous puissiez prier pour que Dieu guérisse votre cœur, vous donne un amour nouveau pour votre enfant, afin que lorsque vous allez les prier, votre prière soit motivée par l'amour et non par le désir de dire à l'enfant, tu vois, j'avais raison. Mais plutôt de se dire, j'en ai sauvé un, j'ai sauvé ceux de ma famille. Pourquoi? Parce que parfois, on est plus prêt à prier pour l'enfant du voisin, du frère, de la sœur à l'église, que pour notre propre enfant. Quand il arrive, vous avez l'impression que le diable est arrivé. Mais je veux vous encourager, cet enfant est sorti de vous, ayez les entrailles de miséricorde.
Amen, amen. Et même à un enfant, des enfants plus âgés, j'y pensais aussi. Si vous êtes un parent, voilà, vous êtes chrétien, vos enfants sont peut-être déjà mariés, ils sont chez eux. Mais on n'est plus parents parce que nos enfants ont quitté la maison, parce que nos enfants sont devenus adultes. Nous restons toujours parents, nous sommes parents pour la vie. Et encore une fois, c'est un autre...
Amen.
c'est une bonne nouvelle. C'est, une bonne nouvelle.
C'est le seul métier dans lequel on n'est pas congédié.
Et c'est encore une autre étape dans laquelle on peut aussi prier, prier pour nos petits-enfants, notre belle-fille, notre beau-fils, vraiment les couvrir aussi par nos prières de cette manière-là. C'est différent que lorsqu'ils étaient avec nous, mais n'empêche que nos prières aussi comptent beaucoup. Alors, on va continuer cette émission avec le témoignage de Delphine dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Et aujourd'hui, on reçoit Delphine. Bonjour Delphine.
Bonjour Nadine.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Je suis très contente de t'avoir sur le plateau aujourd'hui. Delphine, tu viens raconter ton témoignage, raconter ton histoire. Et pour nous mettre en contexte, tout commence même avant ta naissance parce que ta maman, elle était stérile en fait avant de t'avoir.
C'est ça.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Suite à un traumatisme, ma maman était stérile. Donc pendant plusieurs années, elle a prié pour que Dieu la guérisse, et elle avait fait vraiment la prière comme Anne, que si un jour le Seigneur lui accordait des enfants, il serait consacré pour son service. Mm-hmm. Donc voilà, on peut dire que je suis le fruit d'un miracle.
Amen.
Voilà, donc ma vie a commencé comme ça.
Et donc là, tu nais dans cette famille, donc ta maman est une femme chrétienne qui connaît
c'est
le
ça,
Seigneur.
Mon papa aussi.
Ton papa aussi, donc tu nais dans une famille qui est aimante et tout va bien pour toi. Et à l'âge de 5 ans, tu vas avoir un eczéma, c'est ça?
C'est ça. Donc, je suis dans un foyer où, voilà, depuis petite, j'entends parler du Seigneur. Je suis surtout témoin, en fait, du témoignage de mes parents, parce que j'aime entendre, les entendre raconter comment Dieu a changé leur vie. Donc, voilà, je grandis jusqu'à l'âge de 5 ans. Et à l'âge de 5 ans, on va me diagnostiquer un eczéma sévère, qui va engendrer un départ en cure, en fait. À l'âge de 5 ans, je dois partir pendant un mois en cure. Et donc, ça va être un peu un traumatisme quand même dans ma vie d'enfant, oui. Puisque partir loin de chez soi à si petit, ça a été compliqué.
Ça a comme créé une blessure d'abandon, tu dis, dans
c'est
ton
ça. Cœur. C'est ça, oui. C'est quelque chose qui va se développer petit à petit. Et voilà, à ce moment-là, voilà, je suis loin de chez moi, je le vis assez mal, séparée de ma famille. Donc voilà, ça va créer une sorte de blessure dans mon âme. Mm-hmm. Donc ça va être à l'âge de 5 ans. Je dois y retourner à l'âge de 7 ans.
Oui.
Voilà, donc c'est des soins assez lourds. On doit me raser la tête parce que vraiment, j'ai de l'eczéma sur tout le corps. J'ai des parties qui sont carrément en sang. Donc c'est quelque chose qui est compliqué à vivre aussi dans le quotidien parce qu'on peut aussi se moquer ou des choses comme ça.
Okay. Donc tout ça, ça commençait à créer, il y avait des petites blessures comme ça dans ton âme.
C'est ça.
Qui ont commencé à se créer à partir
c'est
de
ça.
Là. Mais tu vas être guérie de ton eczéma,
oui.
Raconte-nous.
C'est à l'âge de 8 ans, je dois faire ma dernière cure. Et là, je dis non, je ne veux pas, vraiment, c'est trop pour moi. Et lors d'une mission d'évangélisation, sous un chapiteau, il y a un appel pour la guérison des malades. Et là, je vais demander à ma maman de m'accompagner et je dis non, Jésus va me guérir et je n'aurai pas à faire cette cure. Et c'est ce qui se passe en fait. Mmh. Dieu me guérit instantanément à ce moment-là, donc il n'y a plus jamais d'eczéma, ma peau redevient normale et donc je ne vais pas à cette troisième cure. Donc ça a été vraiment la première expérience marquante dans ma vie.
D'accord. Voilà. Et donc là, il y a ce cheminement avec Dieu,
c'est
donc une famille qui est chrétienne aimante, qui témoigne de façon tangible de l'évangile. Tu as 8 ans, tu as la présence d'esprit de dire Jésus guéri, je veux m'avancer à l'appel. Mm-hmm. Mais il y avait aussi les blessures qui ont été créées par ce qu'on a déjà mentionné. Et donc, à l'adolescence, comment ça va se passer pour toi?
C'est ça. Ce qui va être compliqué pour moi, c'est dès l'entrée en sixième.
D'accord.
Là, il y a une sorte de basculement. Donc, je change de contexte, je vais changer d'école, je vais m'éloigner aussi à nouveau de mon foyer. Et ça va rappeler, je pense, des blessures de l'enfance. Et donc, je vais tomber dans l'anorexie à ce moment-là. Et il va y avoir toute une période, en fait, où mon mal-être, le manque de confiance en moi, la peur de l'abandon, la peur d'être rejetée va grandir en fait de plus en plus en moi.
Ok. Et ça va se manifester comment, adolescente?
Alors, ça va se manifester, c'est-à-dire que j'ai besoin en fait d'être rassurée.
Oui.
J'ai besoin de me sentir aimée. Donc, je vais très très vite dégringoler et accumuler les fréquentations. Besoin voilà qu'on m'aime en fait.
D'accord.
Et donc du coup ça va être très vite tomber dans la cigarette, dans la drogue, voilà, il va y avoir toute une période assez compliquée. Alors c'est une période où je suis tiraillée parce que j'aime le Seigneur.
Oui.
J'aime sincèrement le Seigneur, j'ai envie de lui donner ma vie mais je suis trop liée à ce moment-là et trop attachée en fait et je vois un petit peu la vie chrétienne comme une liste d'interdits Et il y a des choses auxquelles je ne suis pas prête à renoncer. Donc ça va être un tiraillement. Je vais essayer plusieurs fois de donner ma vie au Seigneur, mais j'essaye par mes propres forces, donc ça ne tient pas longtemps. Mm-hmm. Et donc ça va être ça jusqu'à l'âge de 17 ans. Mm-hmm. Voilà.
Et quelle est l'attitude de tes parents pendant tout ce que tu vis? Est-ce qu'ils étaient au courant, ou est-ce que voilà, tu étais une fille à la maison et tu étais une autre à l'extérieur, ou bien tes parents étaient au courant?
Mes parents étaient au courant, même si j'arrivais à cacher quelque chose. Ouais. Mais non, ils étaient au courant, ils priaient énormément pour moi. Et ils essayaient de me ramener sur le droit chemin. Mais voilà, les relations vont après se détériorer. Il va y avoir des conflits parce qu'ils me voient en train de me perdre et ils savent que j'ai une autre destinée. Oui. Mais à ce moment-là, moi, je vais petit à petit m'éloigner en fait, du Seigneur, et je vais perdre la crainte de Dieu.
D'accord.
Vraiment, à 17 ans et demi, je suis jusqu'à présent, j'étais toujours freinée parce que j'avais la crainte de Dieu. À 17 ans et demi, je perds vraiment ma conscience et je me dis, je vais aller à fond dans ce que le monde peut me donner, en fait.
Okay. Et comment tu dis, tu perds la crainte de Dieu, là, tu parles comme une adulte et tu sais mettre les mots, mais est-ce qu'à l'époque, à 17 ans, tu étais consciente qu'il y avait quelque chose qui se passait, l'André, il y avait comme une ligne que tu oui. franchissais?
J'étais tout à fait consciente, oui. Parce que je me souviens, en partant au lycée, quand je mettais ma ceinture, je me souviens que je me disais, si tu as un accident, tu es perdu. Et je savais très bien où j'allais.
Okay.
Donc, j'étais vraiment consciente. Et puis, il y avait toujours cette promesse aussi, que ma vie était réservée pour le Seigneur. Je le savais, puisque ma mère avait fait cette promesse, elle me le rappelait. Donc, je savais, mais à ce moment-là, j'en étais incapable. J'en étais vraiment incapable. Mm-hmm. Et donc, ça va durer jusqu'à 17 ans et demi, où vraiment, là, je suis au stade où je n'attends plus que d'avoir 18 ans pour quitter le foyer et faire ma vie, quoi.
D'accord. Voilà. Et donc là, tu passes d'une petite fille qui aimait Dieu au point de se lever pour l'appel à 8 ans, à une adolescente qui va maintenant, à cause des blessures, ouvrir la porte à autre chose, parce qu'au départ, c'était l'abandon, c'était voilà, le désir d'être aimé que la plupart des adolescents vont avoir, la peur du rejet, ouvre la porte à la cigarette, à des addictions. Mm. Et donc là, maintenant, petit à petit, tu t'éloignes comme ça du chemin que tes parents t'ont montré. C'est et ça. Tu dis qu'à pour tes 18 ans, tu t'étais fait une promesse.
Oui. À 18 ans, je pars du foyer et pour moi, voilà, je tire un trait sur ma vie d'avant. Et voilà, et je rentre vraiment dans la rébellion et j'ai l'impression que plus rien ne peut m'arrêter, en fait.
D'accord.
J'ai vraiment l'impression à ce moment-là que j'attends déjà presque plus rien, en fait, de la vie, quoi. Vraiment, à ce moment-là, c'est assez difficile. À l'extérieur, je peux montrer une façade, je peux montrer j'ai beaucoup d'amis, je vais rigoler, tout ça. Mais tous les soirs, dans mon lit, dans ma chambre, je pleure et vraiment, je sens que je me perds, en fait.
Oui.
Mais je suis incapable de faire quoi que ce soit, en fait. Je suis démunie, quoi.
Et les prières de ta maman, qui sont là, les prières de tes parents, vont te suivre parce qu'il y a quelque chose de particulier qui va se produire.
Il y a quelque chose de particulier qui va se passer. C'est-à-dire que, juste avant mes 18 ans, dans notre église locale, un camp est organisé pour prendre du temps avec le Seigneur. Donc moi, au début, forcément, je ne veux pas y aller, mais je suis forcée d'y aller. Mmh. Et ma maman va vraiment ressentir en fait l'urgence que c'est maintenant.
Okay.
Et elle va recevoir qu'il faut qu'elle fasse un jeûne et prière pendant une semaine pour mon salut, parce que là, ça devient vraiment urgent, quoi. Et donc, je vais aller à ce camp, pas avec des bons motifs, hein, parce qu'à ce moment-là, je pense que j'attends pas grand-chose. Et à la dernière réunion, parce que je suis quand même rebelle, donc je vais attendre la dernière réunion, le dernier moment. Et en fait, c'est là où le Seigneur est venu me chercher.
D'accord.
J'avais entendu depuis petite. Il n'y a pas eu une prédication plus extraordinaire qu'une autre, mais c'est vraiment le moment que Dieu a choisi. Ce moment-là, en fait, il y a eu cette rencontre où j'ai vraiment réalisé en fait, que jusqu'à présent, j'avais essayé de faire ma vie sans lui. Et je voyais déjà le résultat. J'avais 17 ans et demi, j'attendais déjà plus rien de la vie. J'étais déjà abîmée, j'étais déjà désabusée, j'avais plus d'espoir. Et j'ai dit, Seigneur, jusqu'à présent, j'ai essayé sans toi. Maintenant, prends ma vie, je te la donne.
Okay.
Et j'ai vraiment demandé au Seigneur pardon pour ma vie, d'avoir essayé sans lui. J'ai réalisé la souffrance que j'avais pu lui procurer, la souffrance que j'avais pu procurer à ma famille. Et je me suis dit, non, en fait, la vie que tu es en train de mener, ce n'est pas la vie que Dieu a pour toi, il y a autre chose. Et donc, c'est vraiment là où je vais vivre cette nouvelle naissance. Je vais pouvoir ressentir une libération, de pouvoir vraiment avoir un cœur léger. Je vais pleurer pendant des heures. Ça va être un moment vraiment intense. Et je vais même être baptisée du Saint-Esprit.
Dans le même camp.
Voilà, j'ai eu le pack complet, comme j'aime bien le dire, parce que je pense que le Seigneur savait que j'en aurais besoin parce que voilà, la suite allait être aussi importante.
Et là, tu ressors de là, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu vis cette nouvelle naissance. Au niveau de tes addictions, de tes habitudes, comment ça va se passer pour ça?
Alors, il y a des choses qui vont être radicales. Tout ce qui est cigarettes, drogue, tout ça, ça va être... je vais être libérée totalement, instantanément. Wow. Ensuite, ça va être tout un travail, hein, parce que on démarre une vie avec Dieu, donc on apprend petit à petit à le connaître, à créer cette relation avec lui. Il va falloir plusieurs temps pour que j'apprenne à accepter l'amour de Dieu pour moi, à me reconstruire, à savoir qu'il m'aime comme je suis et qu'il a un plan pour ma vie. Donc voilà, ça va être tout un cheminement, une aventure extraordinaire. Et surtout, j'ai pu rentrer petit à petit dans les plans et dans cette vie que Dieu avait pour moi depuis le début et dont j'ignorais totalement l'existence.
Oui, parce que comme tu le disais, ta maman t'avait consacré avant que tu ne naisses, comme Anne, elle a dit, donnes cet enfant, je te le consacre. C'est ça. Et aujourd'hui, là, on avance vite. Tu as eu cette nouvelle naissance à 18 ans. Là, aujourd'hui, des années plus tard, t'es maman.
C'est ça. Quatre enfants.
Quatre beaux enfants.
C'est là que je me dis, waouh, la prière d'une maman, en étant moi-même maman aujourd'hui, je me dis, elle a du prix, elle a du poids. Et c'est vraiment extraordinaire, en fait, de connaître le Seigneur et de voir comment Dieu, il nous arrache d'un endroit, il nous place là où lui avait prévu et on peut rentrer. Et depuis, je sers le Seigneur avec mon mari. Voilà, il a changé ma vie, hein, comment le dire autrement. Et si je peux encourager quelqu'un, ce serait de dire que peut-être qu'il y a une personne qui peut-être se sent aussi moins que rien. Se dire, personne n'aurait misé sur moi. C'est vraiment la dernière personne à qui quelqu'un aurait pensé, mais Dieu avait misé sur moi. Et aujourd'hui, quand je vois la vie que je peux avoir, ce que je peux faire pour lui, Dieu fait toutes choses nouvelles, Dieu fait toutes choses parfaites. Et persévérer dans la prière, voilà. Parce qu'il n'y a jamais trop tard.
Voilà. Il n'est jamais trop tard.
Pourtant, moi, ma situation, ça montrait que ça aurait pu donner l'impression que c'était trop tard, mais ce n'était pas trop tard pour Dieu.
Et ta maman était persévérante, tes parents étaient persévérants.
C'est ça.
Ils ont donné ce modèle familial, ce cocon familial, mais ça n'a pas suffi. Il fallait que toi, tu rencontres le Seigneur.
C'est ça.
Et c'est par là, la prière de ta maman, comme tu as dit, elle a pris ce jeûne de 7 jours pour pouvoir, d'une semaine, pour pouvoir préparer ton cœur. Et c'était peut-être des prédications, tu en as déjà entendu plein.
C'était le
moment. Cette journée-là, c'était le moment.
C'est ça.
Où Dieu te rencontre.
C'est ça. Donc, persévérons. Et moi qui suis maman aujourd'hui, je prie aussi pour mes enfants, pour qu'ils puissent vivre ça aussi et rentrer dans ce que Dieu a prévu pour eux.
Amen. Merci beaucoup, Delphine.
Avec plaisir.
D'avoir pris le temps de partager ton témoignage. Je bénis ta maman. Je crois qu'à travers ton témoignage, des parents sont encouragés dire qu'eux aussi doivent persévérer, prier pour leurs enfants. Surtout les ados, des fois, c'est des temps compliqués. On a l'impression que tout ce qu'on a investi est en train de nous filer entre les doigts. Mais tes parents ont eu le bon réflexe de continuer à prier pour toi. Et aujourd'hui, te voilà en train de servir le Seigneur, mariée avec une belle famille. Et vraiment, on rend gloire à Dieu pour tout ça. Merci d'être venue partager ton témoignage.
Avec plaisir. Merci, Seigneur.
Amen. Merci, Delphine. Et j'ai envie de dire merci aux parents de Delphine.
Oh, yes.
Surtout, bravo, papa, bravo, maman, d'avoir tenu et d'avoir gardé votre enfant, d'avoir arraché votre enfant des mains de l'ennemi pour l'amener à Dieu. Et Dieu avait un plan pour la vie de Delphine et on bénit le Seigneur pour ça. Et Dieu a un plan pour la vie de vos enfants. Encore une fois, chers parents, ne baissez pas les bras, priez pour vos enfants. Vous êtes la couverture spirituelle de vos enfants. Vous avez une autorité spirituelle. Et comme Omer nous l'a rappelé, priez avec amour. Peut-être il y a des situations qui sont plus compliquées que d'autres. Et votre cœur peut avoir été touché, mais vraiment que le Seigneur puisse vous garder aussi de parler une malédiction sur votre enfant, mais au contraire, vraiment, que de votre bouche sortent des paroles qui bénissent, des paroles qui construisent, des paroles qui disent « Non, mon enfant, tu serviras le Seigneur, tu serviras l'Éternel, ta vie va glorifier Dieu. » Soyez bénis, nous espérons que vous avez apprécié toute cette semaine. Profitez, l'été tire à sa fin, profitez des belles journées, si vous êtes dans un pays, en tout cas, où il y a l'hiver. Et on se dit à la semaine prochaine pour des nouvelles émissions de Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.